Aujourd'hui, dimanche 3 mars, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Je suis un peu triste quand même. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du Salon de l'agriculture à Paris. J'aime bien cette période où les gens de province viennent à la capitale. C'est un des rares moments où dans Paris, il y a des gens souriants et polis. C'est pas que les Parisiens sont des cons, mais pour un gros pourcentage, on s'en rapproche quand même, hein. Et je sais de quoi je parle. Je suis parisien. Sinon, aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. J'aime bien les grands-mères. C'est doux, une grand-mère. Enfin, doux. Doux dans les sentiments. Attention. Parce que pour la plupart d'entre elles, elles ont quand même un peu de barbe. Et la barbe, ça picote. Sinon, rien à voir, mais cette semaine, j'ai appris avec effarement que la vidéo la plus visionnée au monde, c'était ça. Plus de 6 milliards de vues sur YouTube. Un mec en marcel et en tatouage qui sourit comme un crétin, entouré de mecs encore plus tatoués, avec un gamin qui court et une fille à moitié à poil qui marche en se caressant les cheveux. Voilà, 6 milliards de vues. Ça vous dégoûte? Les gens sont cons. Voilà, je vois pas d'autre explication. Et ce qui me chagrine, c'est que je refais partie de ces cons, puisque je l'ai visionné ce clip pour pouvoir en parler. Bref, les 6 milliards de curieux auraient mieux fait, à mon avis, d'écouter cette émission qui est disponible en podcast, bien entendu. Sinon, grande nouvelle aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, Charles-Philippe Duc d'Orléans a 46 ans. Alors oui, tout le monde s'en fout, mais je trouve ça dommage. Si demain, il y a un retour à la monarchie, eh bien, le roi, ce sera lui. Et là, tous ceux qui s'en foutaient de son anniversaire, eh ben, ils feront moins les malins. Moi, je le dis sans honte. Bon anniversaire, Majesté. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche, podcastable à volonté. Pour m'accompagner, l'homme de tous les talents, même de celui de faire le vrai malade, Albert Algout, comment allez-vous?
Ben, je vous remercie, vous êtes toujours aussi gentil avec moi, mais j'étais mourant, oui. J'étais à l'article, j'avais même réclamé l'extrême onction, oui. Le prêtre frappait déjà à ma porte, quand je me suis souvenu qu'il y avait cette émission, qu'il fallait que je fonce à la maison de la radio pour vous rejoindre. Et j'étais d'autant plus ressuscité que nous accueillons deux invités exceptionnels dont je n'ai pas le droit de dire tout de suite le nom.
Pas encore, mais c'est vrai que vous allez mieux. Le curé prélat est venu tout à l'heure. Deux déceptions, déjà vous n'êtes pas mort et ensuite vous avez plus de 12
ans. C'est pas près d'arriver.
Donc voilà, très chagriné. Et nos invités en ce dimanche 3 mars sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Journaliste sportive de haut niveau, animatrice, elle porte une lourde responsabilité cette année sur Canal+, puisque c'est elle qui a été nommée chef d'orchestre pour la diffusion des Grands Prix Moto, une saison qui commence dans une semaine pile poil, le 10 mars, au Qatar. Les amateurs de foot la connaissent, puisqu'elle était en coprésentation sur l'émission J+1. Bonjour et bienvenue Marina Lorenzo.
Bonjour à tous, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, ravi de vous avoir.
C'est un plaisir pour moi d'être dans cette belle maison.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très très bizarre. Journaliste sportive, brune sur Canal+. Ouais, qu'est-ce qui leur arrive?
Je résiste.
Résistance.
Je ne lâcherai pas. Pas une mèche, rien.
Rien du tout, vous avez raison. Le côté de la housse, pas ici. Devant vous, Marina, auteure, comédienne, normalement, elle ne commentera pas la saison Grand Prix Moto sur Canal+. Et pour cause, elle est très occupée en ce moment avec une pièce qu'elle joue au Théâtre de Paris, Le Malade Imaginaire. Elle a un nom de famille connu puisque c'est celui d'un célèbre hippodrome. Bonjour et, bonjour et bienvenue, Aurore Auteuil.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci beaucoup.
Écoutez, j'ai eu la chance de vous voir. Formidable.
Merci.
Génialissime.
J'ai été bien dirigée.
Bah, écoutez, non, c'était très bien. Merci d'être venu si vite. Hein, vous sortez de scène, hein, à peine.
À peine.
Bah, oui, vous êtes encore un petit peu décoiffé, mais c'est de la radio. Hein,
donc, quelle journée le dimanche.
Oh, de dingue. Présentation un peu sommaire, j'en conviens. Alors, pour vraiment, vraiment mieux vous connaître, mesdemoiselles, je vais laisser la parole à un ami cousin d'un célèbre ancien ministre de la Culture. On vous écoute, Jean-Jacques Lang.
Hello, vous les femmes, et vous aussi les hommes, un super check à tous les autres. Bonjour Marina Lorenzo, bienvenue Aurore Auteuil.
Vous avez l'air en grande forme,
mais je suis à bloc, Dani, d'autant plus que je suis guéri comme Albert Legault, d'autant plus que nous accueillons deux invités qui incarnent tout ce qui me passionne dans la vie, la moto et Molière.
Ah, je ne savais pas vous passionner pour la moto.
Mais enfin, Dani, il n'y a pas que sur le dance floor du Banana que je m'éclate au milieu des toughers, clubbers, go-go dancers, gangsta rappeurs, break dancers, hip-hoppers, pole dancers, strip dancers.
Envoyez,
tu ne crois pas si bien dire. Dani chéri, en effet, mon plus grand plaisir, au bout de la night, quand la teuf touche à sa fin, après l'after, comme le chantait mon ami Charles Aznavour, à l'heure où naît un jour nouveau, je rentre regagner mon lot de solitude. Eh bien, je ne me couche pas en repensant à mes amours sans joie, si dérisoire. Non, j'enfourche ma moto et clac, j'appuie sur le starter. Et voici que je quitte la terre. Les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins.
Vous ne craignez plus personne en la Davidson, c'est ça?
Qui mieux que Serge Gainsbourg, j'ai admirablement interprété par la voix de Brigitte Bardot, que j'ai admirablement singé. Qui pouvait mieux exalter les plaisirs intenses de la motocyclette? Et qui mieux que Marina Lorenzo pour commenter ces compétitions captivantes, trépidantes, vibrantes, ronflantes, grondantes, vrombissantes, stridentes, pétaradantes, assourdissantes, des tas de trucs en nantes. Bon, oui.
Oui. Finissez alors, votre phrase, vous n'avez pas fini.
Si, je l'ai fini. Des tas de trucs en ordre. Aussi, vous laisserai-je.
Voilà.
Vous laisserai-je.
Oui, laissez-moi.
Cher Daniel, Dani Tomio, lui demandez vous-même de nous en dire plus sur la moto. Quant à Molière.
Ah, votre autre passion.
Oui, qui mieux que Aurore Auteuil pour évoquer ce grand auteur, puisqu'elle brille en ce moment dans le malade imaginaire où elle incarne avec autant de brio que de malice Toinette. La servante au grand cœur et à la langue bien pendue. Non,
certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi vous aimez Molière, Gigi.
Mais ce serait trop long à vous exposer. Toujours est-il que ce qui me fait kiffer Molière, ce sont les coiffures.
Des perruques.
Mais je m'en cogne comme de mon premier shampoing Régicolor. J'aime tellement Molière que dès ce soir, chez Zouzou Coiffure, je vais demander à Jean Patou, mon capilliculteur paysagiste, qui est aussi un as du fer à friser, après m'avoir posé des extensions capillaires en poil de yak, c'est comme ça qu'on procède, je vais lui demander de me coiffer à la Molière, me les lissant, ondulant, crantant, papillotant, bouclant, crépant, frisotant, torsadant, bichonnant, poudrant. Alors vive la moto, vive Molière et bonne émission.
Merci, Gigi.
Ah bah de voilà, rien les filles.
Présentation complète. On en sait beaucoup plus sur nos deux invités qui sont Aurore Auteuil et Marina Lorenzo. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h dans Vous les femmes sur France Inter. Excellent dimanche à tous.
Understood. Girl, it's alright. What you know, what you know, what you know about me. It's no lie, I'm alright for you. They don't know, they don't know, they don't know about me. I won't lie, I would die for you. But she's telling me now. So don't fall in love. And I never spit a word on your ex, dude. I don't ever wanna be rude, but I'm feeling things coming unglued. Tell me one time what's deep in your mind, we can make it alright. But she's telling me now, this could be the last time.
Beat Assayant, Bad Boy. Très smooth, très dimanche après-midi. Je suis ravi que vous soyez avec nous.
Vous, les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
En compagnie d'Aurore Auteuil qui joue Toinette dans Le Malade Imaginaire au Théâtre de Paris. C'est jusqu'au 25 mai, du mercredi au samedi à 20h30, le samedi à 17h, le dimanche à 15h30. Également avec nous, Marina Lorenzo, journaliste du groupe Canal. Elle prend en main les grands prix moto. C'est une première pour la chaîne Canal+. Premier rendez-vous dans une semaine, le 10 mars au Qatar. Mesdemoiselles, nous allons revenir sur quelques dates qui ont été importantes dans votre parcours. On commence par vous, Aurore, si vous en êtes d'accord. Oui. 2004, les monologues du vagin.
Oui.
Oui. Vous pouvez développer, sinon, oui, pardon, sinon ça va être très dur.
Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Oui, mais c'est la première fois, pardon, que j'ai joué au théâtre, qu'on m'offrait un rôle au théâtre, et c'est la première pièce dans laquelle j'ai joué.
Ça reste un bon souvenir.
Oui, ça reste un super. J'étais pétrie de peur, bien évidemment, mais c'était génial de pouvoir avoir la chance de jouer. Je sortais de l'école, j'étais chez Monsieur Périmoni, les cours Périmoni, et j'étais très très heureuse de pouvoir jouer ça. En plus, bon, le texte, tout ça, qui était assez libérateur quand on est jeune, qui parle de la féminité, etc. Donc c'était une chance de jouer ça. Oui, c'est un beau souvenir pour moi.
Alors, autre bon souvenir, j'imagine, c'est en 2011, ça vous a valu une nomination au Molière Jeune Talent, c'est Le Vieux Juif Blonde.
Oui, ça c'est sûr que c'est peut-être, avec ce que je vis là, qui n'est pas un souvenir parce que je le joue en ce moment, je le vis, mais on peut dire que ça c'était extraordinaire pour moi de jouer ce rôle. Je m'étais battue pour l'avoir, celui-là. J'avais vu Mélanie Thierry le jouer, et je l'avais trouvé exceptionnel.
La pièce d'Amanda Sterz,
oui, et je rêvais de interpréter le rôle, et quand il a fallu Amanda chercher une comédienne pour reprendre le rôle, j'ai bataillé pour la rencontrer, passer les essais, etc., et j'ai été prise. Et c'est vrai que ce rôle était très porteur pour moi, pour plein de choses. Voilà.
On passe en 2015, Sarr et Jérémy, un seul en scène, mis en scène par quelqu'un d'excellentissime, Ladislas Chola.
Oui, que j'adore.
Quelqu'un qui compte beaucoup pour vous.
Énormément, qui est un peu comme un grand frère. J'avais joué dans sa pièce, il avait écrit une pièce qui s'appelle « Je serai pas au rendez-vous ».
C'est un titre encourageant.
Oui,
je peux compter sur le gars, je serai pas au rendez-vous. Voilà, voilà.
Moi, c'est clair.
Je te le dis tout de suite.
Il la mettait en scène, il avait écrit, c'était fabuleux, ouais. Et on est devenus amis, et quand j'ai voulu écrire un spectacle, il m'a accompagnée, et il a accepté de le mettre en scène, et je tenais beaucoup à cette histoire-là, donc j'étais particulièrement touchée qu'il accepte de travailler avec moi dessus.
Et là, on passe en 2019, Toinette dans Le Malade Imaginaire au Théâtre de Paris, et vous venez sur Inter pour nous parler de cette pièce, justement, Le Malade Imaginaire, et je vais donner le casting au complet. Alors vous êtes aux côtés de Daniel Auteuil, d'Alain Doutet, de Victoire Bellesi, de Pierre-Yves Bon, de Natalia Doncheva, de Jean-Marie Gallet, de Gaël Cotta, de Loïc Legendre, de Cédric Zimelin et de Laurent Bozzi. Alors je vais essayer de résumer l'histoire. Argan va bien, mais il croit qu'il est très malade. Veut filer remarier à Béline qui n'attend que sa mort pour hériter. Argan, pour se rassurer quant aux maladies imaginaires qui l'accablent, veut que sa fille Angélique épouse le fils de son médecin. Problème, Angélique aime déjà quelqu'un d'autre, Cléante.
Que sentez-vous?
Oh, je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon.
Il m'arrive parfois d'avoir des maux de cœur.
Le poumon.
Et aussi, je sens de lassitude par tous les membres.
Le poumon.
Et quelquefois, j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques.
Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez?
Oui, monsieur.
Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin?
Oui, monsieur.
Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien à l'aise de dormir?
Oui, monsieur.
Le poumon, vous dis-je.
L'extrait. Extrait entre Argan, le malade imaginaire, et Toinette, sa servante, déguisée en docteur. Alors, Toinette, c'est vous.
Oui.
Et le malade imaginaire, c'est Daniel Auteuil.
Oui.
Donc, une scène très drôle où Toinette en a marre de l'entendre tout le temps se plaindre.
Non, elle a une grande affection pour lui, en fait.
Ah, mais elle le porte.
Elle a une grande un grand amour pour ce monsieur.
Et elle voit ce qui se trame autour de lui.
Voilà, et dans les indications que mon père me donnait, c'était Toinette, elle est au-dessus de tout, et elle a l'intelligence du peuple. Et ça nous parlait beaucoup à tous les deux, ça. et elle est très intelligente et elle ne supporte pas l'injustice. Donc de voir son maître, le monsieur pour qui elle travaille, se faire avoir par une femme qui n'en veut qu'à ses sous, et bref, elle, et de voir qu'il se fait avoir aussi par les médecins qui veulent lui, qui va certainement mourir de des médicaments qu'on lui donne. Elle est là
alors
pour,
qu'il est bien portant.
Alors qu'à la base, il est bien portant. Elle veut absolument le sortir de sa situation et qu'il s'en sorte et qu'il soit heureux, voilà.
Alors c'est un rôle très dense, c'est un rôle physique. Vous sortez dans quel état de vos représentations ?
Oh bah très porté, parce qu'on est dans l'adrénaline, alors oui. Ça, on met du temps à redescendre. Hein. C'est-à-dire que moi qui suis plutôt une couche-tôt dans la vie, j'arrive pas à m'endormir avant 2h du matin. C'est vrai qu'on est porté par cette énergie et tout... Non, ce qui était éreintant, c'était les répétitions surtout. Après, parce qu'on a beaucoup, énormément travaillé. Et c'était fabuleux parce qu'on était nourri aussi beaucoup du travail qu'on faisait. Et puis, ça a été absolument génial. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça de ma vie. Hein. Il est génial en... Donc c'est mon père, Daniel Auteuil, qui fait la mise en scène.
Il y a un rapport de famille entre les deux ?
Je crois que c'est mon père.
Si on me dit rien, je vais pas y arriver.
Voilà, et il nous a extrêmement bien dirigés, c'est sûr. Et on était... Ce qui est génial dans sa façon de mettre en scène, c'est qu'il savait déjà exactement ce qu'il voulait. Donc il nous a guidés là où il voulait qu'on aille. Donc c'est plutôt rassurant, en plus de savoir d'être avec un metteur en scène qui sait où il veut aller... Où il veut vous emmener, et on trouve notre liberté, si vous voulez, dans le chemin qu'il nous a tracé. Voilà, donc effectivement, au niveau de l'énergie, oui, c'est fatigant, et en même temps, c'est pas si... Enfin, comment dirais-je, c'est fatigant, oui ou non, parce que...
C'est plutôt euphorisant. Pour
voilà, c'est ça, exactement.
Si vous cherchez vos mots, vous me demandez.
Merci, alors, vous êtes là, vous me sauvez.
Service public, vous savez. Alors, le public est hyper, hyper varié. Alors, j'ai l'impression qu'au-delà des comédiens, on en parlait tout à l'heure, les spectateurs viennent voir du Molière, viennent voir Molière. Vous avez cette impression aussi ?
Oui, alors je pense aussi que les gens sont portés par le fait que ce soit papa qui joue. Enfin, c'est ça aussi ce qui est attrayant pour les gens, c'est de savoir que c'est lui, parce qu'ils ont... confiance en ce qu'ils vont voir parce qu'ils savent que c'est lui. Et ce qui est génial, c'est que grâce à lui, justement, ça amène des gens à voir cette pièce. Voilà. Donc on a de tout, effectivement. On a des familles, on a des jeunes. C'est fabuleux, ça. Voilà, ça rassemble. C'est vraiment un spectacle qui rassemble.
Et donc, Le Malade Imaginaire, une pièce majeure de l'œuvre de Molière, Albert.
Bah, c'est une pièce majeure, d'autant plus que c'est la dernière, c'est l'ultime pièce de Molière, c'est 1673, si je ne me trompe. Et c'est certainement une des plus comiques, une des plus satiriques, une des plus mordantes. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand il l'écrivait, et quand il l'a joué, Molière était gravement malade. Hein. Il se savait condamné, d'ailleurs. Il savait
alors,
que...
papa dit que non. La dernière fois que j'ai dit ça, il me dit qu'il ne savait pas qu'il allait mourir. Après...
Alors,
papa,
il y a des historiens,
papa...
par exemple, Bulgakov.
En tout cas,
il était dans un état alarmant. Et ce qui rend d'autant plus poignant, cette pièce. Et surtout, il avait approché les médecins, comme ceux brocardés dans la pièce, Purgon, Diafoirus, et, comme l'apothicaire Florent,
oui,
je
monsieur
crois.
Florent.
Monsieur Florent. Il les avait abordés. Donc, il se moque du corps pseudo-médical, prétendument médical. Mais aussi, il se moque de lui-même. Comme pour exorciser sa peur, parce que il était rongé par le mal, il avait eu des malaises qui avaient précédé, et puis il en a eu un fatal. Alors c'est une pièce très très drôle. Il y a un côté tragique quand on sait ça, mais c'est une pièce très drôle pour les raisons que vous venez d'évoquer, avec ces scènes dans lesquelles vous êtes, notamment quand vous vous déguisez en médecin. Ça c'est absolument hilarant. Il y a aussi la
scène avec Diafoirus.
La Diafoirus qui est extraordinaire. Oui. Le Diafoirus père et Diafoirus fils. Thomas, ça c'est tout à fait remarquable. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est une pièce qui a des échos très très actuelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas du tout une pièce ancienne. Elle résonne de manière tout à fait actuelle, notamment contre les dérives de certaines pratiques médicales, certains délires interprétatifs de certaines disciplines.
L'hypocondrie
aujourd'hui, les gens sur Internet qui se trouvent toutes les maladies en allant sur Internet.
Et les histoires de famille.
Voilà, il y a tout ça derrière. Donc c'est une pièce très 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 riche. Alors les puristes disent que c'est pas la plus grande pièce de Molière. Moi je pense que c'est certainement une des plus drôles, une des plus coruscantes. Et avec des dimensions et des reliefs incroyables.
Et dans la mise en scène, ce qu'il souhaitait, c'est pour ça qu'il nous a fait travailler en amont. On a dû travailler le. Enfin, moi, il a voulu qu'on l'apprenne. Déjà, on devait arriver aux répétitions texte su. On a commencé à bosser le texte pour soi à partir de juin l'année dernière. Et on a répété à partir de novembre. Ce qu'il voulait, c'est que le texte soit tellement en nous, que la façon dont on le donne, ça arrive directement aux gens. Enfin, comment dire.
Aidez-moi, j'ai trop peu de
mal. Oh là, j'ai du mal à chaque fois à m'exprimer. Non, le fait de vous le dire comme je vous parle là. Ouais, voilà, ouais. Je sais pas si c'est un bon exemple vu que je bafouille, mais
vous n'êtes pas la seule. Hein.
Non, c'est très bien, c'est parfait.
Bon, je vous remercie.
Il y a plus de pression à jouer à Molière un classique comme ça plutôt qu'une pièce contemporaine.
Ah bah écoutez, ouais. Parce que déjà le il est plus là, comme Molière n'est, enfin.
Ah, vous êtes au courant?
Ah oui. Non, mais c'est vrai que de jouer le texte de quelqu'un déjà qui n'est plus là, c'est une grosse responsabilité de jouer le texte d'un mort. Moi, je trouve le respect qu'on a par rapport à cette personne, etc. Et puis, il n'est pas là pour dire si ce qu'on fait lui plaît ou non. Et puis, enfin, moi, la pression venait surtout du fait de jouer avec mon père et le fait que ce soit lui qui mette en scène. Hein, voilà.
Alors, c'est contraignant ou c'est angoissant? De jouer avec son père.
Oh, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni contraignant ni.
Ou les deux.
Oppressant, c'est ça que vous m'avez dit.
Oui, oppressant, angoissant.
Non, non, non. C'est plus par rapport aux gens, ce que vont dire les gens, les critiques, tout ça. C'est que le travail soit fait, plaise et soit apprécié. Voilà, c'est tout. Après, c'est porteur de jouer avec son parent. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui vous aimera plus dans votre vie que votre père ou votre mère. Hein, donc, enfin, j'espère. Donc, voilà. Donc, et puis moi, j'en rêvais depuis tellement de temps de pouvoir jouer avec lui et d'être à ses côtés que... Non, non. Et puis, voilà. Non, non, c'est fabuleux de pouvoir partager ça et de jouer avec lui. Enfin, c'est ma plus belle expérience et là, c'est sûr.
Au Théâtre de Paris, Le Malade Imaginaire, Daniel et Aurore Auteuil, allez-y, les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les quand même pour voir la pièce. C'est un peu idiot ce que je veux dire. Non, Marina Lorenzo, complètement con. Marina Lorenzo, c'est à vous, même punition. 1996, sport, études, handball en Normandie.
Oui, tout oui. À fait.
Championne.
Championne.
Vous n'auriez plus.
J'aurais pas pu. Non, je pense pas. Non, non. Non, non, j'ai fait tout mon lycée, effectivement, en sport, études, handball en Normandie, à Évreux. J'ai arrêté ensuite pour pouvoir faire des études et avoir un vrai boulot, comme le voulaient mes parents.
Ouais. C'est là que vous partez vers Toulouse ?
Là, je pars en Bourgogne, passer mon bac, et je reviens ensuite à Paris commencer mes études.
D'accord.
Et je laisse de côté un petit peu le handball qui m'a nourri pendant des années et qui m'a fait grandir et aimer le sport, évidemment.
Et en 2003, école de journalisme.
Exactement.
À Toulouse.
Qui m'envoie à Toulouse. Mm-hmm. C'est pas mal pour aller faire ses études.
Sympa.
Donc, ouais, c'était sympa. Super, super école. Et voilà, une école qui laisse beaucoup s'exprimer les personnalités des journalistes. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Des profils très variés. Donc j'aime ça parce qu'on a tendance à être pas mal uniformisé dans les écoles et celle de Toulouse, je trouve qu'elle nous laisse beaucoup de liberté.
Beaucoup de liberté pour pouvoir choisir.
Oui.
En 2006, Radio France Internationale, RFI.
Oui, exactement. J'étais ici même dans ces locaux puisque à l'époque, RFI était là.
C'était déjà en travaux à l'époque.
C'était déjà en travaux à l'époque.
On va pas en sortir.
Je crois que ça n'a jamais vraiment arrêté. Non, non, j'ai passé des années géniales parce que quand on sort d'école, moi je m'étais spécialisée en plus en radio. J'avais vraiment envie de travailler en radio. C'est le média que j'affectionnais et que j'écoutais et que je connaissais le plus. Donc arriver ici dans la maison Radio France après les études de journalisme, c'est assez chouette, c'est assez grisant. Et puis c'est tellement formateur la radio, donc j'ai fini par la quitter parce qu'il y avait moins de possibilités d'embauche, on va dire, ici qu'ailleurs. Mais super formation et je le recommande à tous. Commencez par la radio.
Et en janvier 2010, vous signez un CDI, c'est assez rare pour le dire.
Ouais.
Canal Plus.
Exactement. Quelques mois après être arrivée en pige. Donc en pige, je travaille à la journée. Et effectivement, je pense que mon expérience radio du direct et de la gestion de tranches et d'invités m'a pas mal aidée à avoir rapidement une place en télé. Parce que je savais gérer le direct, l'information, la mise en place de l'information. Après, il fallait gérer juste la tête, le sourire, les mouvements, les parasites un peu physiques. J'ai fait rapidement de l'antenne.
Et c'est quand vous étiez à RFI qu'il vous arrivait cette micro-galère où vous avez un invité qui annule. Au dernier moment, vous recevez un poète syrien. Vous ne connaissez pas toute sa bio.
Non.
Il le sent, il s'énerve et ça a été hyper délicat, c'est ça?
Ouais, ça a été super délicat parce qu'on se sent vraiment con, quoi, à ce moment-là.
Mais c'était pas de votre faute, vous aviez remplacé au pied levé.
Ouais, c'est ça, ça m'a été remplacé au pied levé. Sauf qu'on te dit, c'est ça aussi ton métier et puis il faut y aller, quoi. Là, t'as une tranche de direct à faire. Tu vas avoir un invité que tu maîtrises pas, mais. 2-3 questions, tu passes un extrait, et puis ça va aller, et puis on y va parce qu'il faut y aller.
On sort les avirons, comme on dit.
Exactement. Et puis là, on se sent quand même vraiment seul au monde, quoi. Seul au monde face à un mec qui comprend tout de suite qu'on maîtrise pas et qu'il a raison d'ailleurs de s'offusquer, je ne sais pas. En tout cas, il a raison de se rendre compte qu'on n'a pas travaillé le sujet comme on aurait dû le faire. Donc grosse claque parce qu'on ressort, on se sent seul, on pleure, petit, oui. on a envie de se fouetter, se dire je suis nulle, je suis pas faite pour ce métier. Et puis surtout, ouais, c'est une question de principe
aussi,
quoi,
de fierté aussi.
Et de fierté. Ouais. Mm-hmm.
Mm. En tout cas, c'est assez rare pour le souligner. Un journaliste qui admet ne pas connaître l'actualité de son invité. Bravo, bravo Marina. Vous n'êtes, pas,
bah ouais,
nombreux, vous n'êtes pas nombreux sur cette terre. On passe en septembre 2015, J+1, c'est un Mac de foot, Mac Foot en direct. Vous avez, et vous avez deux équipes de cœur,
oui,
en football. Vous avez Toulouse et bien sûr...
Évidemment.
Eh oui, évidemment. Saint-Etienne, où vous avez grandi?
Ouais, exactement, je suis née là-bas, là, toute ma famille maternelle est là-bas. Donc j'y ai grandi avec toute ma famille et puis on s'est un peu exilé quand j'avais 12-13 ans, mais ça reste mon cœur, ça reste ma famille, mes parents y sont toujours et ce sont mes origines. Ouais.
Et quand vous allez à Saint-Etienne, s'il y a un match à Geoffroy Guichard, vous y allez?
Oui, ouais. Oui monsieur,
ouais.
Ouais. Surtout le derby.
Ah oui, oui, oui. Voilà, attention, pas être lyonnais dans ce cas-là. Et 2019, Moto Grand Prix sur Canal+, et vous venez nous parler de cette première saison des Grands Prix, une saison qui commence dans une semaine, le 10 mars, c'est une première pour la chaîne, à la retransmission de ces Grands Prix moto. On vous a confié le bébé, la mission. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet, au point d'avoir quitté la coprésentation de J+1?
Beaucoup de choses.
Parce que vous adoriez être sur,
ouais,
J+1.
Ouais, j'adorais, je me suis éclatée, c'est un programme exceptionnel, unique, dans lequel je me suis vraiment, vraiment régalée.
Puis
donc il fallait un projet...
Puis le direct.
Et puis le direct, ouais, effectivement. Il fallait un projet très fort, ouais, pour me sortir,
lâcher, ouais.
Pour me sortir ça. Et la moto, c'est ça a tous les ingrédients pour me plaire. C'est-à-dire, déjà la matière en elle-même, qui est spectaculaire, avec un suspense absolument incroyable sur chaque course.
Il y a des images folles,
des images de dingue. Connaissant bien la maison Canal et sachant comment on s'est traité l'image, je me suis dit c'est fait pour nous, vraiment ce traitement technologique. Je suis sûr que ça va être ça peut être qu'une réussite. Le fait d'être aussi au contact des gens, parce que c'est ce qui va se passer, on va tout faire sur site, on n'aura pas de plateau à Paris.
Parlez-nous du dispositif.
Dispositif, c'est en gros, écoutez, on aura deux duos de commentateurs, donc un duo David Dumas et Randy Depunier qui feront la MotoGP, donc la catégorie reine du championnat du monde de vitesse MotoGP. Et puis ensuite, il y a Moto2, Moto3, les catégories inférieures, où là aussi, on a un duo de commentateurs et de consultants. Avec Laurent Rigal, Louis Rossi, et puis on aura également d'autres consultants qui pourront venir nous aider. Les consultants sont beaucoup des gens qui ont encore des contacts et même plus dans le milieu, c'est-à-dire que sont des pilotes qui font encore des essais sur des machines actuelles, qui ont des contacts encore avec toutes les équipes, donc qui ont vraiment un pied encore dans le milieu, donc ça c'est super. On y sera à partir du jeudi au dimanche, les week-ends de course, 15 heures d'antenne. Ça va envoyer sérieusement.
Et vous allez gérer tout ça, vous allez être le lien au milieu.
Oui. Mmh. Ouais, je serai le lien sur site, dans les pit lane paddock, auprès des pilotes, des garages, des pistes.
T'as la chance.
Ça va être génial. Bah ouais, avec des
génial.
Bons bouchons pour les oreilles, parce que au niveau sonore, ça on voit aussi. Et puis voilà, on va faire vivre ça comme on le sait faire à Canal. Et j'avoue qu'il y a une grosse attente. De la part
vous,
du public.
Vous mettez la pression?
Oui, on se met une pression, mais pression
c'est
super
un bon moteur,
positive.
Ça.
Ouais, c'est très très, ouais. C'est très très motivant. Et puis l'équipe qui part là, elle a envie d'y aller, donc j'ai absolument aucun doute.
Aurore Auteuil, là, vous regardez Marina avec les yeux de l'envie, vous êtes mariée?
Ah bah,
ce genre d'expérience?
Oh bah, c'est sympa, là, avec des motards, il y a des garçons partout, je ne dis pas non.
Et voilà, il faut voir le bon côté des choses.
Voilà. Je vais venir d'ailleurs.
Mais ils sont petits, Aurore, en règle générale.
Ah
ils sont
bon,
pas
oh,
des grands.
Je suis pas très grande, c'est pas grave.
Bon, bah voilà, bon, ça, bon. C'est
ah
bon.
Bah, en cherchant bien, on va trouver. Hein. Ah oui. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit pas, je serai pas au rendez-vous. Il écoute pas, j'espère.
Non. Ah, bon. Oh, il me connaît.
Il sait à qui il a affaire. Donc, rendez-vous pile poil dans une semaine, le premier Grand Prix.
Exactement, le premier Grand Prix au Qatar, le dimanche, course nocturne. Et on sera là, je vous le dis, dès le jeudi, vendredi, sur toutes les antennes.
Ça commence dans 4 jours.
Ouais, Canal+ Sport et toutes nos chaînes.
On vous a demandé, Mesdemoiselles, un titre qui vous rappelait un souvenir musical, bien sûr. On commence par vous, Aurore, si vous le voulez bien.
Oui.
Et vous nous avez dit...
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl.
Cheap Thrills. Sia featuring Sean Paul. Pourquoi? Ça vous rappelle quoi?
Ça me rappelle une époque où, enfin, ça me rappelle, enfin, une époque, c'est il y a 2 ans, on m'avait demandé d'écrire pour le Paris des femmes un texte. Mmh. Et je sais pas, j'aimais bien cette période. Je me sentais légère, libre. J'étais contente qu'on fasse appel à moi pour écrire. J'avais demandé à le jouer. Non, j'étais bien, voilà. C'est
bonne période, confiance,
oui,
confiance en soi.
Les enfants grandissent un peu, on se retrouve un peu, on se dit bon, allez.
C'est un peu libre.
Oui, une liberté qu'on retrouve. Ouais. Donc voilà, ça me rappelle ça.
Ah bah écoutez, on va laisser un petit peu courir comme ça. J'aime bien quand vous vous rappelez des bons souvenirs. Vous êtes toutes souriantes, c'est génial. Marina Lorenzo, votre choix. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas comme genre de musique quand on vous a entendu il y a deux minutes dire « La moto, ça y va, les images, ça va dépoter, boum, on y va, choix musical, rien à foutre, je te mets ça. »
Ouais.
Formidable, John Legend.
Ah, mais ça, génial, bah, le BO du film Django, déjà, donc un film absolument exceptionnel et qui a été pris, qui a été, c'est, en fait, c'est le générique de J+1. Et bah voilà, donc ça évoque plein de choses pour moi, ce film, cet esprit, cette émission où là on était assis, on était déjà tous évidemment en studio et on entendait le générique et là,
c'était
ça,
parti, vous étiez en condition.
C'était parti, quand on était dedans quoi, et ça c'est
prête pour envoyer.
Exactement.
Attention, traînez pas devant, je roule. Fini de rire, mesdemoiselles, attention, Marina Lorenzo, Aurore Auteuil, on va revenir sur vos vies mais façon inter, c'est-à-dire qu'on va vérifier si vous avez la fibre de gauche, si vous avez le cœur sur la main. On va vous intériser. Socialement, on était hyper mal partis avec la petite Aurore Auteuil. Élevée à Neuilly, au cœur même de la cité francilienne,
absolument
où les nantis...
Absolument pas, si, Neuilly.
Taisez-vous, c'est moi qui décide. Où les nantitoises, les malheurs d'une île de France aux abois, pour beaucoup dans la misère, pour certains dans la déprime, pour le plus grand nombre dans le désespoir. Par la suite, Aurore suit des cours d'art dramatique. C'est bien le drame, c'est populaire, ça sent la soupe bon marché et les yeux remplis de larmes. Mais cet intérêt au drame fait-il pour autant d'Aurore Auteuil une femme de cœur? Non,
non,
bien sûr que non. Très rapidement, l'Aurore s'envole destination showbiz, où elle croise la route des plus dépravés, comme en 2003, où elle se repent sans vergogne, saison 12, épisode 5 de Julie Lescaut, aux côtés de la terrible Véronique Geneste, qui en est saison 65 personnellement. Un parcours cruel pour une personne cruelle qui, oh, apothéose, arrive en 2019 sur la scène d'un théâtre, où elle guette le déclin de celui qui lui donna la vie, pour probablement mieux prendre sa place. Fille indigne! Est-on mieux loti avec Marina Lorenzo? On le croyait! En tout cas, c'était bien parti! Née à Saint-Étienne, vous pensez bien qu'elle avait tous les atouts pour devenir révoltée contre l'inégalité. Elle qui a vécu ses premières années dans l'environnement stéphanois, synonyme de grande précarité intellectuelle, culturelle et sociale. Et ce malheur géographico-sociétal fait-il forcément de Marina Lorenzo une femme de cœur? Non, bien sûr que non. Car au lieu d'aller travailler à l'usine et de suer sang et eau en étant payé une misère, au lieu de se résigner à habiter dans une maison insalubre et de manger des conserves froides en écoutant chanter Bernard Lavillier, le héros local, elle choisit de s'émanciper pour mieux à son tour dominer, voire contrôler les autres. Elle fait des études et devient journaliste. Puis c'est l'engrenage infernal. Elle signe un CDI à Canal, l'équivalent d'un contrat signé avec son sang avec le diable. Sa vie devient dès lors une farandole de vices et de délires engendrée par le pognon qui salit tout. Elle se met au service du football avec J+1. Le football, sport analphabète, créé pour aliéner les masses. Puis maintenant, c'est la moto. Moto, symbole de liberté, peut-être, mais d'une liberté illusoire, qui s'assied sur des bolides et qui assied des hommes qui roulent peut-être à 300 km/h. Mais vers quoi? Vers rien, puisqu'un circuit, par définition, ça tourne en rond. Sorcière! Marina Lorenzo, Aurore Auteuil, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des femmes au grand cœur. Mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour fêter les 46 ans de notre futur roi, Charles-Philippe, duc d'Orléans. Orléans, Marina, ne changez rien!
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier.
pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux.
Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Angèle, Roméo, Elvis, tout oublié.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais, étant ouais. Sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
La présence douce également d'Aurore Auteuil qui joue Toinette dans Le Malade Imaginaire. C'est au Théâtre de Paris. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 25 mai. C'est du mercredi au samedi à 20h30. Le samedi à 17h et le dimanche à 15h30. Marina Lorenzo, journaliste du groupe Canal. Attention, elle prend en main le Grand Prix Moto. Ça commence le 10 mars prochain, c'est-à-dire dans une semaine au Qatar. C'est le premier rendez-vous. Elle est à fond, elle est à bloc. Petite question, Aurore. Vous êtes proche de votre père depuis toujours, mais là, oui. De jouer avec lui tous les soirs, est-ce que ça vous rapproche encore plus?
Oui, ça nous a. C'est pas qu'on s'était perdu de vue parce qu'on s'est souvent vu et tout, mais le fait de se voir et de n'être que tous les deux sans, par exemple, les enfants. Enfin, moi, j'ai deux enfants, et donc le fait de partager ces moments-là dans le travail, c'est une complicité qu'on retrouve que j'avais quand j'étais petite fille. Mm-hmm. Donc
quand vous étiez petite, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous aviez l'habitude de le rejoindre sur scène pour aller...
c'était le moment que j'attendais à chaque fois que j'allais le voir, c'est qu'il me fasse saluer avec lui. Je trouvais ça génial, moi, comme génial. Ça, applaudir.
Monter sur scène, c'est génial. C'est génial.
Ça, top. Et puis aussi, quand on se voyait, je le faisais, et comme il travaillait tout le temps, je lui faisais répéter ses textes. Donc j'ai des souvenirs de Scapin, je faisais travailler son texte sous un arbre à Saint-Cloud. Voilà, donc J'ai toujours partagé ces moments. Enfin, j'adorais ça en plus. Et puis l'accompagner sur ses tournages, tout ça, c'était génial. Donc, on retrouve ça de quand j'étais enfant.
Alors, ça ne va pas être facile, le rapport fille comédienne, papa comédien. Si vous aidez, on parle de favoritisme. Et si vous n'êtes pas, on dit.
Ah, par rapport aux gens.
Oui, par rapport aux autres, bien sûr. On dit c'est injuste. Comment vous gérez ça tous les deux? Comment ça vous tracasse pas ça vous...
C'est... Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est dur pour tout le monde déjà à la base ce métier. Hein. C'est pas un métier facile. Donc bon, après, ce qui rentre en compte dedans, c'est que on peut être face à la, comme c'est des métiers qui sont difficiles et qu'il y a pas beaucoup de travail, peut-être à la jalousie ou tout ça. Voilà. Après, bon, je peux aussi entendre que les gens soient envieux et jaloux tellement la vie est compliquée. Je leur jette pas la pierre.
Mais bon, le fait que vous soyez sa fille, oui. Là, ça n'a pas gêné pour le... Ou justement, il a été très précautionneux, vous avez passé des essais comme tout le monde.
Non, pas du tout, je n'ai pas passé d'essais parce qu'il m'avait vu travailler, il connaît mon travail, donc il savait que le rôle... Enfin, il savait que le rôle... Il pensait que le rôle était pour moi, qu'il n'y avait pas de souci. Donc, il m'a fait travailler autant que les autres, enfin, au même titre que les autres, il n'y a pas eu de différence de ce côté-là.
Et est-ce que ça fait drôle quand, dans la pièce, votre père vous met la main aux fesses?
Ah, bon, écoutez, non. C'est-à-dire que j'en suis arrivée à un stade au niveau de l'analyse où ça, c'est dépassé. Nous ne sommes plus dans le deep, ni l'un ni l'autre. Donc
tout va bien.
Il n'y a aucun souci.
Rapport comédien-comédienne.
Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème.
Marina Lorenzo, en marge de vos activités, Marina, vous travaillez avec une association toulousaine.
Oui.
Les Pitchounes du Monde, c'est une asso qui fournit du matériel à des orphelinats. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bah c'est en fait une rencontre, comme souvent, rencontre du couple qui a monté cette association, qui a tout plaqué. Ils ont une petite trentaine d'années, Julia et Nadine, ils ont plaqué leur boulot respectif et ils se sont lancés dans ce projet qui paraît un peu dingue au début, puis surtout énorme, parce qu'on se dit ils partent en Asie. Eux, leur objectif, c'est vraiment d'amener le matériel. Donc il n'y a jamais des containers qui partent sans eux, ils partent en groupe, tout est accompagné, tout est encadré. C'est la rencontre, c'est la manière dont ils travaillent, l'engagement qu'ils produisent, qui m'a amené à les aider, parce que je me suis dit, le moindre coup de main pour des associations comme ça est le bienvenu et je fais tout ce que je peux pour leur venir en aide. Ouais.
Vous avez dit que vous aviez, bien sûr, vous étiez passionné par le sport dans vos études, et vous avez dit qu'à un moment vous avez pris un petit chemin de traverse pour vous intéresser à la culture, à la politique, au théâtre et tout ça. Quand vous voyez des carrières comme celle d'Aurore, ça vous fait un peu envie. Ça aurait pu être une carrière que vous auriez envisagée.
Bon, elle est pas finie sa vie, elle est jeune.
Ouais,
encore.
Elle est pas finie. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je me dis toujours déjà dans ma tête qu'effectivement.
Moi,
je
j'ai
peux
des gens de canal qui
m'ont
dit que c'était fini. Votre
je peux
carrière,
avoir une autre carrière. Donc, ah, c'est ça.
Il est bien renseigné.
Il faut que je me dépêche vraiment à la reconversion.
Vous auriez pu être tenté.
Alors. De jouer, je pense pas que j'aurais eu le courage, tout simplement, de le faire, même si peut-être que prendre une antenne en direct à la télé,
c'est
finalement,
pareil,
ça ressemble finalement à plutôt, parce qu'il est assez paradoxal, c'est que j'avais pas forcément envie d'être mise en avant à l'époque, et finalement, bon, j'en suis venue à ce métier, et que je ne renie pas du tout, au contraire, dans lequel je m'éclate, mais du coup, je me dis, ouais, peut-être que j'avais un petit besoin, du coup, de je sais pas, de d'exposition, je ne sais pas,
peut-être
finalement.
Peut-être de souffler, de voir ailleurs. Ouais.
Mais je pense que l'envie de parler culture, géopolitique, etc., ça m'est venu du fait d'avoir fait énormément de sport, en fait, très jeune. Et sport-études, on est là-dedans en permanence, et en fait, à un moment donné, on a envie de pousser les portes, dire, ok, il se passe quoi maintenant au théâtre, au cinéma, c'est quoi la vie en dehors de ça, parce que...
Oui, il se passe quoi dans le monde.
Quoi dans le monde. C'est là que j'ai compris aussi les sportifs de haut niveau, je me suis dit, ils s'astreignent, il y a une vie qui est quand même
très dur,
très dur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je conçois pas d'avoir des œillères comme ça toute sa vie, se dire je fais ça et que ça.
Et comme les
et
jeunes,
je vais me perfectionner
les joueurs de foot, là, l'équipe de France, tout ça, apparemment, ils sont très coupés de tout.
Ben oui, forcément, on rentre dans une bulle qui.
En plus, ils sont très jeunes, c'est des bébés.
Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est venu de ça aussi, l'envie de voir le monde autour, tout simplement. Ouais.
Et à Canal+ ou ailleurs, il y a d'autres. Vous avez d'autres envies? D'autres projets peut-être qui sont sur le feu.
J'ai rien de concret pour l'instant. Je me dis toujours que ce que je disais tout à l'heure, nos carrières aujourd'hui, elles sont faites de beaucoup d'expériences. Donc je me dis qu'il y aura certainement une autre expérience pour moi après la télé.
Parce qu'il y a l'exemple d'Isabelle Iturburu qui avait commencé, qui était sur le sport et qui maintenant est sur Bonsoir, une émission qui n'a plus rien à voir avec le sport.
Oui, c'est vrai que j'ai cette envie-là. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas encore tout fait dans le sport.
Et oui, bien sûr. Non, mais c'était juste, est-ce que vous en avez l'envie? Vous dites non, moi, c'est. J'ai envie de rester dans.
Pour l'instant, vraiment.
Surtout
je
que là, vous êtes à
sport.
La bonne place.
Ouais,
pour
ça.
Le sport sur Canal+, c'est quand même une.
Exactement.
Une
pour l'instant, je suis très bien où je suis. On verra dans quelques années. Ça se décidera, je pense, tout seul. Comme j'ai beaucoup fait dans ma carrière, ça s'est décanté un peu naturellement.
Vous laissez le destin vous pousser.
Beaucoup. Peut-être un peu trop, mais c'est pas mal.
Et pour l'instant, ça vous arrive.
Ça marche bien.
Ouais, ça marche plutôt pas mal. Alors, chaque semaine, je vous le dis tout de suite, Albert Algou nous brosse le portrait d'une femme quasi inconnue, et pourtant, une femme exceptionnelle. Aujourd'hui, non, il était une femme, on va parler de Camille Dugast. On vous écoute, Alberto.
Alors, j'aurais pu vous parler aujourd'hui de femmes qui brillèrent et qui brillent encore dans les plus grandes courses de deux roues, compétition longtemps dominée par les hommes. Par exemple, la Britannique Beryl Swain, une des toutes premières, la Finlandaise Taru Rinne, l'Italienne Maria Costello, Livia Lancelot, double championne du monde de motocross, l'Italienne Steffi Bao, première femme à participer au championnat du monde de MX2 aux côtés de pilotes hommes, etc. Mais je ne peux résister au plaisir de remonter un peu dans le temps pour évoquer la toute première femme française, pilote automobile. Donc, il était une fois Camille Dugast. Camille naît en 1868. Avant de piloter des autos, la jeune femme, qui était aussi chanteuse lyrique et une excellente pianiste, concertiste, avait été une pionnière du saut en parachute. Et oui, Camille Dugast, donc, est la première française en 1898, avec la duchesse d'Uzès, à obtenir l'équivalent du permis de conduire. Il faut préciser qu'avant 1914, le nombre de permis délivrés à des femmes atteindra à peine la petite centaine. En 1901, Camille prend le départ de la course Paris-Berlin et termine à la 33e place sur 122, ce qui était quand même pas mal. Elle est la première française à participer à une course automobile, donc, et la nouvelle est reprise dans toute la presse, dans laquelle elle est surnommée l'Amazone aux yeux verts ou la Valkyrie de la mécanique. Riche, non-conformiste et casse-cou, libre de tout préjugé, l'élégante Camille Dugast suscite pourtant rumeurs et jalousies, notamment de la part des instances du sport automobile. Ainsi, dans une affaire qui défraya la chronique judiciaire, l'affaire dite de la femme au masque, elle fut soupçonnée d'avoir posé nue et masquée pour une toile due au peintre Gervex, un peintre très à la mode à l'époque. Et en fait, c'était surtout parce qu'elle osa prendre le volant que Camille Dugast fut jugée scandaleuse. En 1903, dans sa Dietrich 35 chevaux, elle participe à la course Paris-Madrid, qui tourne vite à une effrayante hécatombe, jalonnée de terribles accidents et d'une quinzaine de morts. Marcel Renault, par exemple, pour ne citer que lui, aveuglé par la poussière d'une voiture qui précède la sienne, percute un arbre. Il agonisera 2 jours et 2 nuits. Camille, qui roule dans le peloton de tête à 120 km/h, s'arrête pour secourir un pilote écrasé sous sa voiture et le sauve d'une mort certaine. Sans cette halte, elle serait arrivée 8e. Elle est à ce moment-là la seule femme licenciée à l'Automobile Club de France. Mais alors que le conducteur Benz, le futur constructeur de la Mercedes, lui propose de courir sous ses couleurs, le gouvernement français, sous prétexte des accidents du Paris-Madrid, interdit à Camille, comme à toute autre femme, mais pas aux hommes, de participer à des courses automobiles. La raison invoquée, l'inexpérience et la nervosité féminine. Voyons donc.
Ah bah oui.
Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, Camille se lance alors dans le motonautisme. Et en mai 1905, elle remporte une course incroyable de 500 000 Alger-Toulon, au cours de laquelle elle est sauvée d'une tempête épouvantable par le croiseur Kléber. Un drame familial sordide met pourtant fin à ses exploits sportifs. Camille échappe à une tentative d'assassinat chez elle en pleine nuit. Elle réussit à mettre, parce qu'elle était costaud, à mettre en fuite ses agresseurs, mais l'enquête révélera que tout a été ourdi par des voyous amis de sa propre fille. Désormais, Camille Dugast va se consacrer à la défense des créatures et des êtres vulnérables. Après la Première Guerre mondiale, elle devient vice-présidente de la Ligue française du droit des femmes. Elle se bat pour le droit de vote, aux côtés des suffragistes et notamment de la Grande Séverine dont on a parlé récemment ici. Sensible aussi à la souffrance animale, elle préside la SPA et avec ses fonds propres, elle modernise et fait agrandir le refuge animalier de Gennevilliers. Elle organise également des manifestations retentissantes, déjà à l'époque, contre la corrida. Et durant la Seconde Guerre mondiale, elle crée et finance des dispensaires, toujours à ses frais, qui accueillent des orphelins et des filles-mères. Elle quitte définitivement la route en 1942. Total respect à Camille Dugast.
Vous avez entendu parler de...
Non, c'est une très... Quelle vie ? Quelle découverte ?
Eh ben, il y en a plein, comme ça. Toutes les semaines, Alberto nous fait la joie d'en parler. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver les portraits d'Albert sur le site Il était une femme. Vous pourrez notamment retrouver celui de Séverine.
La grande Séverine, qui est un personnage extraordinaire.
Tout extraordinaire, bien évidemment.
Vous, les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Mesdemoiselles, il est l'heure de changer de costume, de changer vos costumes. Aurore Auteuil, vous n'êtes plus Aurore Auteuil, la comédienne. Vous êtes Aurore Lorenzo, journaliste sport à Canal+. Oh. Marina Lorenzo, vous n'êtes plus Marina Lorenzo, la journaliste sport à Canal+. Vous êtes Marina Auteuil, la comédienne. Oh Lorenzo, ça se présente comment ce premier Grand Prix moto de la semaine au Qatar ?
Oh bah écoutez, super, il fait beau, comment vous dire, les mecs sont pas mal, ils ont des belles motos. Ah non, tout va bien, je sirote une limonade au soleil et j'attends que ça se passe.
Très bien, vous êtes préparé comment pour cette grande première ?
Oh bah écoutez, j'ai mis un petit peu de crème et de... pour éviter les coups de soleil.
Un petit peu d'écran
J'ai mon bikini au Qatar et tout va bien.
Aurore Lorenzo, à part Bernard Lavillier en Marseille, vous gardez quoi comme souvenir de Saint-Etienne ?
Oh bah écoutez, comment vous dire
Je vous écoute. Une ville rayante, des amis.
Oui, plein d'amis.
Il y a la manufacture.
Le début de l'alcoolisme, c'est là-bas.
Ah ouais, ça c'est terrible ça. J'ai eu du mal à m'en remettre d'ailleurs.
Et c'est quoi l'étape d'après au sein du groupe Canal pour vous, Aurore Lorenzo?
Oh bah écoutez, le patron peut-être.
Bah oui, évidemment.
Merci Aurore Lorenzo. Marina Auteuil, on apprend comment un texte comme celui du malade imaginaire?
Comment on l'apprend? On l'appréhende. On lit beaucoup, on répète beaucoup, on ne dort pas. Hein, c'est ça, Aurore.
On mange beaucoup.
On mange beaucoup. Et on stresse aussi un peu, non?
Énormément.
Énormément.
Et ça fait quel effet de jouer avec un monstre comme Daniel Auteuil?
Ah bah c'était un rêve.
Un monstre
depuis,
de talent.
Depuis toute jeune, même avant ma naissance, même j'y pensais déjà.
Marina Auteuil, vous pouvez nous dire, avec le ton bien sûr, votre première réplique de la pièce?
Mais bien sûr.
Comme ça de mémoire.
Diantre, soit fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet.
Bravo.
Ah ouais, bravo.
Ah oui, comme ça.
De tête. Hein. Ah oui, culture. Culture générale.
Vous travaillez sur quoi en ce moment, hein, Marina Auteuil?
Je suis en train d'écrire.
Oui.
J'écris. Oui, tout à fait.
Beaucoup.
Un gros projet. J'écris beaucoup, jour et nuit.
Quand ce sera abouti, vous viendrez nous en reparler.
Exactement. Je vous réserverai la primeur de ce projet.
Merci, Marina Auteuil. Ah bah c'est bien, vous êtes bien prêtée au jeu, dites donc. Vous pourriez dans la peau l'une de l'autre. Vous avez bien mérité des cadeaux, mesdemoiselles. Les cadeaux, c'est l'affaire de qui? D'Alberto.
Alors pour vous, Marina Lorenzo, comme vous allez voyager beaucoup pour commenter les Grands Prix, une revue formidable dont j'ai déjà parlé ici, c'est L'âme des lieux. C'est le numéro 4 qui nous emmène à Buenos Aires, en Inde, au Japon, en Croatie, au Groenland, qui perd le Nord. La maquette est magnifique. Il y a du fond, des articles tout à fait intéressants.
Parfait.
L'âme des lieux, excellente revue. Pour vous, Aurore Auteuil, il est une maladie qui n'est pas imaginaire, c'est la maladie d'Alzheimer, je suis désolé pour la rime. Alors sans doute un des récits les plus pertinents écrits sur le sujet, ça s'intitule « Quand maman plantait des brosses à dents » de Christelle Bardet, c'est chez Plon. Alors des premiers troubles jusqu'à la fin inéluctable, et bien Christelle Bardet avec verve, poésie, humour, elle réussit un hommage, ce qui est à la fois un hommage à sa mère, voilà, et un pied de nez à la maladie. C'est truculent et poignant et poétique en même temps.
Écoutez, très très beau livre. Beaucoup,
voilà.
Merci.
Quand maman plantait des brosses à dents de Christelle Bardet chez Plon.
Vous entendez la musique, vous reconnaissez la musique, c'est la fin de Vous les femmes, et aujourd'hui nos invités étaient Aurore Auteuil qui joue Toinette dans Le Malade imaginaire au Théâtre de Paris, c'est jusqu'au 25 mai, allez-y, vous allez passer un excellent moment, c'est du mercredi au samedi à 20h30, le samedi à 17h, le dimanche à 15h30, Marina Lorenzo, journaliste qui prend en main les Grands Prix Moto. La première, c'est le 10 mars, c'est au Qatar, c'est une première pour elle, et également pour Canal+, soyez au rendez-vous. Merci Albert Algou, à la réalisation de cette émission, Marie-Annick Rimbaud, l'attachée de production, n'était nul autre que Christine Kern, à la technique, Paul Percheron, programmation musicale, Thierry Dupin. Cette émission est bien entendu podcastable à volonté. La semaine prochaine, nos invités seront Marie Bastide, une parolière, et Claire Nouvian, militante écolo qui a beaucoup, beaucoup de succès et des réussites, notamment auprès du Parlement européen, pour faire interdire de vilaines pêches. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter. Demain à 6h57, vous retrouverez l'excellent Frédéric Sigrist. Moi, les amis, pour tous ceux qui ont la chance d'en avoir, je vous souhaite d'excellentes vacances.